Chapitre 3. Mustapha, fin décembre. J'ai passé la nuit dernière à entendre aboyer des chiens. La campagne était en rumeur et je ne crois pas qu'il y eût aux environs un seul de ces animaux, soit errant, soit à la tâche, qui ne criât et dont je ne puisse entendre la voix. Comme la nuit était humide, l'air tranquille et sonore, je calculais, d'après la décroissance indéfinie des bruits, que les plus faibles devaient être apportés de plus d'une lieue. D'abord, je craignis un incendie, mais je m'aperçus pas la plus petite lumière, ni à terre, ni dans la baie. Hormis ces bêtes glapissantes, tout dormait dans une sécurité profonde et sous le paisible regard des étoiles. Les chiens criaient pour se répondre, comme ils ont l'habitude de le faire parce que quelque part un des leurs avait d'abord élevé la voix. L'éveil, une fois donné dans les chenilles, l'alarme avait dû gagner de proche en proche, et par des nuits calmes comme celle-ci, il n'était pas impossible que ce long aboiement se répandît de l'autre côté du Sahel, et de gourbie en gourbie, de ferme en ferme, de village en village, se prolongea par un écho continu jusqu'au fond de la plaine. Je ne me suis endormi qu'aux approches du jour, et cependant, dois-je avouer de pareils enfantillages ? Cette nuit singulière m'a paru courte. Ce que j'ai récapitulé de souvenirs, le nombre de lieux que j'ai revus, le nombre aussi des années écoulées qu'il m'a semblé revivre, je ne saurais l'écrire car je n'aurais pu les noter même au passage. C'étaient des visions instantanées, rapides, mais d'une vivacité qui m'allait au cœur comme un aiguillon. Elles se succédaient aussi précipitamment que les bruits, les choses bizarres. Au milieu de tous ces aboiements à peu près pareils, je distinguais des notes très diverses et des tonalités particulières dont chacune avait pour ma mémoire une signification précise et correspondait à des réminiscences. Les unes représentaient telle province de France, les autres telle époque ou telle aventure de ma vie que je croyais oubliée et qui ne l'était pas. Ma vie de campagne surtout et mes années de voyage, les deux périodes où je m'intéressais aux bruits champêtres et vécus le plus activement. Que de coins de pays dans l'ouest, vers la Manche ou vers le Midi, que de petits villages dont je n'ai pas gardé le nom et que j'ai pour ainsi dire habité cette nuit, pendant quelques secondes, grâce à ce mécanisme prodigieux de la mémoire appliquée au son. D'autres voix, plus farouches ou plus rauques, ressemblant à davantage à des miaulements, me remémoraient mes séjours en Afrique. Pour la plupart, je les reconnaissais à les entendre se répéter à la même distance, dans une direction fixe et à des intervalles toujours égaux. Il m'est arrivé d'attendre avec anxiété la voix correspondante à tel souvenir, soit pour me pénétrer mieux du plaisir que j'en éprouvais, soit pour le continuer si d'autres l'avaient interrompu. Ce matin, presque toutes ces visions ont disparu, à l'exception de quelques-unes dont l'impression demeure. Je me souviens surtout d'avoir pensé longtemps, en écoutant la voix très reconnaissable d'un chien bédouin, à une nuit d'hiver, aigre et glacée, placée dans un petit douar vers l'extrémité du tell de Constantine. C'était en pleine montagne, hors des routes et dans un pays des plus âpres. Il y a de cela plusieurs années. J'étais arrivé le soir après une longue étape. À peine avais-je eu quelques minutes de jour pour nettoyer la place où je campais et faire établir ma tente au centre du douar et sous sa garde. Autrefois, il n'y avait qu'un terrain pétri de boue, d'ordures et de débris. La gelée qui reprenait avec le soir avait heureusement tout durci. Le sol était en outre couvert de carcasses d'animaux ou tués par la boucherie, ou plutôt morts de misère. L'hiver, qui était dur, en faisait partout périr un grand nombre, et parmi les petits douars du tel, la détresse était affreuse. Toute la nuit, les chèvres et les petits moutons parqués dans l'enceinte et réfugiés le plus près possible des tentes, bêlèrent de souffrance et toussèrent. Les enfants, percés de froid et ne pouvant dormir, geignaient sous le pauvre abri des ménages, et les femmes gémissaient en les berçant sans parvenir à chasser ni le froid ni l'insomnie. Les chiens hurlaient en s'agitant dans ce noir. Inquiétés par le feu de ma lanterne, ils entouraient ma tente. J'en avais mis toutes les boucles et fortement assujetti les piquets. Et dès que ma lumière fut éteinte, leur cercle se rétrécit encore, et jusqu'au matin je pus les entendre gratter la terre, passer leur museau sous la toile en reniflant, et je sentis sur ma figure leur haleine de bête fauve. Oh, cette nuit fut lamentable et je ne fermais pas l'œil. Au point du jour, je quittai le Douar et n'y suis jamais revenu. Ce souvenir est un des mille que j'aurais à citer. Il est bref, voilà pourquoi je l'ai noté. L'histoire ancienne de ma vie se déroula devant moi durant ces quelques heures de veillée. Il faisait assez clair dans ma chambre au mur blanc, et ce demi-jour transparent me tenait mystérieusement compagnie. Vers 5 heures du matin, les aboiements diminuèrent, et je m'endormis. 4 janvier 1853. J'ai été averti par un changement de date que nous avons passé d'une année dans une autre. « Il n'y a pas de jour, me diras-tu, qui ne soit marqué par un anniversaire et qui ne puisse être pris pour point de départ d'une année nouvelle. Cependant, si cette date de janvier est adoptée par des préjugés de mœurs ou d'habitudes sociales, elle est inscrite aussi dans ce que j'appellerais les préjugés de la conscience, et c'est un calendrier qu'il est toujours bon d'emporter avec soi, même en voyage. » Je me suis souvenu tout à coup que le temps fuyait pour tout, pour tous et pour moi-même. Au lieu du bercement si plein d'oubli que j'éprouvais ces jours derniers, je me suis senti soulevé par des eaux courantes. Alors je me suis dit qu'il n'est jamais prudent de laisser couler des mois sans en faire le compte, que le temps qui fuit inaperçu est celui dont on ne peut mesurer l'emploi, et que c'est souvent mauvais signe quand on peut dire d'une année « Comme elle a été courte !» Cette calme existence, sous un ciel plein de caresses, dans un pays qui plaît, c'est quelque chose qui ressemble à la vie pour en avoir pris l'indépendance et les loisirs, et qui n'en a retenu aucun des liens, ni les embarras, ni les certitudes, ni les soucis, ni l'émulation, ni presque les devoirs. Cet abandon de soi-même, joint à l'abandon de tant de choses, tout cela a-t-il bien en soi sa raison d'être? Il y a dans l'extrême jeunesse des années entières de longues années dont toute la cendre, hélas, tiendrait dans un médaillon de femme. Mais ce sont les années légères. Les nôtres ont une autre mesure, un poids différent, et doivent laisser après elles quelque chose de mieux que des cendres et des parfums. J'étais un jour dans un village du sud au coucher du soleil, et par une soirée si belle qu'elle en devenait dangereuse pour un esprit trop naturellement sensible au repos. C'était au bord d'un étang, sous des dattiers. Baigné d'air chaud, pénétré de silence et sous l'empire de sensations extraordinairement douces et perfides, je disais à mon compagnon « Pourquoi donc s'en aller ailleurs ? Si loin du soleil et du bien-être, si loin de la paix, si loin du beau, si loin de la sagesse. » Mon compagnon, qui n'était pas un philosophe, mais simplement un homme actif, me répondit « Retournez vite au pays froid, quand vous avez besoin d'être aiguillonné par le vent du nord. Vous y trouverez moins de soleil, moins de bien-être, beaucoup moins de paix surtout. Mais vous y verrez des hommes, et sages ou non, vous y vivrez, ce qui est la loi. L'Orient, c'est un lit de repos trop commode, où l'on s'étend, où l'on est bien, où l'on ne s'ennuie jamais, parce que déjà on y sommeille, où l'on croit penser, où l'on dort. Beaucoup y semblent vivre, qui n'existent plus depuis longtemps. Voyez les Arabes, voyez les Européens qui se font Arabes, pour avoir un moyen lent, commode et détourné, d'en finir avec la vie par un voluptueux suicide. Je ne retournerai pas au pays du Nord avant le moment que j'ai marqué, mais je me souviendrai plus assidûment du conseil qui me fut donné. Et puisque tel est le premier tort de la solitude, puisque tel est, sur moi du moins, l'effet du silence, du ciel bleu, des sentiers déserts, à partir d'aujourd'hui, je rentre dans le monde des vivants. Mustapha d'Alger, janvier. Jusqu'à présent, je ne t'ai fait des Algériens qu'un portrait général. J'ai parlé de gravité, de discrétion, de dignité naturelle dans le port, dans le langage, dans les habitudes, pour t'indiquer par des traits d'ensemble ce qui frappe au premier abord tout nouveau venu qui débarque d'un pays d'Europe où ses qualités extérieures sont précisément les plus rares. N'oublions pas cependant qu'il y a deux peuples ici, pleins de ressemblances si nous les comparons à nous, mais absolument divers dès qu'on définit chacun d'eux. Nous avons vu les similitudes, aujourd'hui voyons les diversités. Restituons à chacun le nom dont il est jaloux. Laissons l'arabe où il est, dans la campagne, fixé dans les villages ou promenant ses tentes. Et pendant que j'habite Alger, parlons des Maures. Peut-être leur portrait perdra-t-il quelque chose à devenir en effet plus ressemblant. Il pourrait arriver que la précision, au lieu de grandir leurs traits, les diminua. Alger est une ville arabe habitée par des Maures. Les Maures forment les trois quarts au moins de sa population indigène. Le reste est mêlé de nègres, d'émigrants biskri ou mzabites, de juifs parlant la langue commune et restés toujours les mêmes depuis leur transportation sous Titus et sous Adrien. Enfin, de quelques Arabes, mais en si petit nombre qu'on peut dire avec certitude qu'il n'y a pas d'Arabes dans Alger. Cette ville n'était au surplus leur capitale et leur citadelle que par fiction. C'était le chef-lieu d'un gouvernement qu'ils n'aimaient pas et le centre administratif d'une administration à laquelle ils obéissaient mal. Ils y tenaient pour l'honneur du croissant, mais nullement par intérêt pour leur dernier pacha. Ils n'avaient jamais lié leur cause à la sienne, et telle était leur indifférence à l'égard de la moderne Carthage, qu'ils l'ont laissé tomber sans lui porter secours et sans prévoir qu'ils se perdaient eux-mêmes en l'abandonnant. Ils n'avaient mis là qu'une petite part de leur orgueil en dépôt sous la garde des Turcs et comme les Sahariens font pour leur grain dans des silos d'étrangers. Leur vraie destinée était ailleurs. Ils se réservaient de les défendre sur leur propre territoire et pied à pied, et cette longue guerre numide qui finit à peine, à prouver comment ils entendaient la politique et comment ils pratiquaient la guerre. Les historiens ont beaucoup écrit sur les Maures. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? À quelle famille orientale les rattacher? Sont-ils de la race aborigène? Viennent-ils des Maures d'Espagne, refoulés le long des États barbaresques? Sont-ils, comme on l'a dit encore, les descendants directs d'une invasion arabe antérieure à celle des califes? Y doit-on voir au contraire un produit fort mélangé de toutes les invasions, et n'y aurait-il pas dans les veines de ce peuple au trait charmant, mais indécis, un composé de sang barbare et de sang gréco-romain? Voilà la moindre partie des hypothèses. La question reste douteuse et la filiation des Maures est encore à prouver. Quelle que soit la parenté des Arabes et des Maures, qu'on puisse ou non les rapprocher à leur point d'origine, il est impossible aujourd'hui de les confondre, eux-mêmes ne veulent pas être confondus. Peut-être n'y a-t-il pas là deux races, mais il y a là deux branches, et bien nettement deux familles, qui n'ont en réalité rien de commun que la langue et la religion, qui ne se ressemblent ni par le type, ni par les habitudes, ni par la façon de vivre, ni par le tempérament, ni par le caractère, ni par le costume, et pas plus par les qualités que par les vices, qui ne s'aiment ni ne s'estiment, dont les intérêts mêmes sont opposés, et qui vivraient peut-être en ennemis si nous n'étions pas là. n'ayant plus alors pour faire amitié contre nous le lien commun des antipathies et la fraternité des rancunes. L'une est un peuple encore féodal, de campagnards, de voyageurs et de soldats, nombreux, pleins de ressources, très grands de toute manière, par ses origines, par son histoire et par ses mœurs, héroïque à la façon d'Alexandre, aventureux comme lui faisant de la guerre un voyage armé, père d'une religion qui a failli couvrir le monde, répandu jusqu'aux extrémités de l'Orient, sans être à proprement parler maître nulle part, vivant ainsi dans des pays incomparables et toujours portant sur son visage comme un air de noblesse la beauté même de sa destinée. Mais l'autre est un petit peuple d'artisans, de boutiquiers, de rentiers et de scribes, très bourgeois, un peu mesquin dans ses mœurs, comme il est étriqué dans son costume, élégant mais sans grandeur, joli plutôt que beau, tout juste aisé, jamais pauvre, et qui n'atteint au splendide ni par le luxe ni par les misères. Chacun d'eux d'ailleurs a son orgueil, et ce serait leur faire une injure égale que de se tromper de nom, comme avec deux individus consanguins. Ce qui manque à ce dernier peuple, c'est précisément ce que le premier possède en excès. C'est quelque chose que j'appellerais la grandeur, ou pour parler en peintre, le style. Les Maures n'ont aucun style. Cela tient beaucoup à leur personne, beaucoup aussi au milieu dans lequel on les voit. Tout autour d'eux est petit et contribue à les diminuer. Leurs rues étroites, leurs boutiques à peine habitables, leur vie sédentaire et leur habitude d'être assis à la turque plutôt qu'étendus à l'arabe. Leur costume les habille avec grâce et ne les drape pas. Il est étroit, il manque d'abondance et de plis, n'ajoute rien à l'importance de l'homme et amoindrirait au contraire celle qu'on lui suppose. Un vêtement plus ample fait, oh, je ne sais pas pourquoi, mais présumer des passions plus fortes, une âme plus grande. C'est un préjugé d'ordre artistique, si tu veux, mais ici, bien entendu, je parle en artiste. Avec leurs vestes collantes à la taille, leurs culottes en forme de jupe et leurs ceintures que beaucoup portent lâches, il est aussi difficile aux vieillards de paraître majestueux qu'aux jeunes gens de ne pas avoir l'air efféminé. Efféminé, voilà, je crois, le mot qui convient, car il définit leur caractère, s'adapte à leur goût, précise exactement leurs aptitudes, les résume au physique comme au moral et les juge. N'est-ce pas le propre des pays de gynécée de produire une sorte de confusion dans les sexes et d'affaiblir l'un dans la mesure même où l'autre est dégradé? Chose bizarre, en même temps qu'elle disparaît de la vie publique, la femme aussitôt se manifeste dans le tempérament de la race. Moins on lui reconnaît d'importance extérieure, plus elle en acquiert par le sang. On la méprise en raison de l'abus qu'on fait d'elle. Elle est cloîtrée, oisive, on l'assimile aux objets de luxe ou de plaisir, mais l'homme alors la remplace et en vient à lui ressembler par des substitutions d'emploi qui le font descendre. C'est par là que la femme se venge en abaissant l'espèce, et l'espèce est punie du tort de la société. Il en résulte que nous voyons un peuple quasi féminin, des garçons presque filles, des jeunes gens qu'on prendrait pour des femmes, un visage imberbe, des formes rondes, de beaux traits, mais un peu mous, rien de fort ni de résolu, une beauté incertaine et jamais virile, jusqu'à l'âge où la jeunesse elle-même est effacée par la gravité des années. À l'inverse des Arabes, chez qui la fainéantise est le droit du mâle, ici c'est le mari qui travaille, je veux dire, qui manie l'aiguille. Il prépare les laines, il l'éteint, il fabrique les étoffes, il coud. Il fait non seulement ses propres habits, mais ceux des femmes et des enfants, leurs chaussures avec les siennes, leurs toilettes aussi bien que leurs bijoux. Lui seul a l'art des passementeries et des broderies. Il sait comment assortir les couleurs, comment la soie se croise avec les fils d'or. Il a ses métiers, ses dévidoirs, ses écheveaux, ses pelotons, ses bobines, ses ciseaux, tout un petit arsenal d'instruments qui paraît bizarre entre ses mains et qui le rend méprisable aux yeux de ses voisins manieurs de sabre. Si la force lui manque, il hérite au moins des contraires de la force. Il a l'adresse, l'habileté des doigts, la délicatesse et la grâce. Il est intelligent, souple et docile. Il calcule, et si le commerce ne lui convient qu'à demi, loin de le déclarer indigne, il l'estime. Son activité, d'ailleurs, n'est jamais bien grande. Aussi indolent à son établi qu'il est insouciant dans sa boutique, aussi peu diligent à coudre qu'il est peu pressé de vendre, il considère le commerce aussi bien que l'industrie comme des passe-temps, et le travail est plutôt fait pour remplir ses loisirs que pour occuper sa vie. À vrai dire, c'est un moyen de se distraire et de se désennuyer du repos. Les maures n'aiment pas les chevaux, n'en possèdent guère et les manient mal. Leur tournure un peu grêle jure avec le lourd équipement des chevaux arabes, car il faut une tenue de cavalier et l'attirail de guerre pour occuper dignement la selle à haut dossier et pour chausser les étriers turcs. Ils ont la sandale de cuir noir des gens qui vont à pied et marchent peu. Les demi-bas pendant l'hiver et jamais de bottes. Un éperon traînant rendrait leur marche impossible. Le soir, on rencontre certains d'entre eux, les plus riches, qui partent pour leur jardin, mais portés alors par des mules, assis de côté sur une selle large et plate, matelassés comme une litière, et menant leur tranquille monture à coups de houssine, sans se servir de la bride ni du talon. Leur équitation ne va jamais plus loin. Chose encore plus inconnue des Arabes et plus superflue pour ces yeux infatigables, beaucoup de vieillards portent des besicles. Ce sont les compteurs d'argent, les scribes, les maîtres d'école, en un mot les tolbas, qu'on voit écrire avec un roseau sur le petit carré de papier posé sans autre appui dans leur main gauche, et dont la longue écritoire de cuivre est engainée dans un pli de leur ceinture, à cette place au-dessous du cœur où les gens de guerre portent le poignard. L'écritoire, le stylet de roseau, quelques feuillets de papier, plus un vieux Coran manuscrit que peu de gens lisent et qu'un très petit nombre comprend, voilà au reste tout ce qui rappelle les lettres. Et cela suffit pour distinguer les maures des Arabes, beaucoup plus illettrés encore. Le vrai peuple, cependant, lit peu et n'écrit guère. Celui-là fume, rêve, regarde et cause en travaillant des doigts. Il passe à l'ombre et dans l'azur froid des bazars les longues journées que les gens de même race sont tenus à dépenser hors de leur maison. Le bazar lui tient lieu de forum. Il représente à la fois la chambre de travail et la place publique, et chacun y trouve chez tout le monde et chez soi. Il y a des cafés, des essences, des fleurs et des oiseaux. Des rossignols chantent dans de petites cages en pointe de porc-épic suspendues à l'auvent des boutiques. Au-dessous des cages et sur les tréteaux, on voit des jeunes gens assis côte à côte, avec des broderies sur leurs genoux, des écheveaux de fil d'or ou de soie passés derrière l'oreille, propres, bien mis, le visage un peu plus clair que de l'ambre pâle, peu vêtus car ils ont le cou, les jambes et les bras nus, avec des vestes de couleur bien choisies, des ceintures qui varient du rouge au rose vif, et des culottes blanches à mille plis, qui s'évastent autour d'eux quand ils sont assis, des attitudes élégantes, soit au repos, soit au travail, beaucoup de langueur dans les yeux et, pour achever de n'être plus des hommes, quelquefois les paupières peintes, presque toujours des fleurs posées près de la joue. Ils fument du tabac odorant, les voluptueux du tekruri, c'est-à-dire de la feuille de chanvre réduite en poussière, ou pour employer le terme connu du haschich, c'est ce qu'ils appellent faire le kief. Le kief est proprement le repos plein de bien-être et poussé jusqu'à l'ivresse, produit par toute boisson, par toute fumée stupéfiante. Il signifie l'effet du sorbet ou de la pipe. Par abus de mots, on l'applique à l'objet lui-même. Il m'est arrivé de demander du kief et d'être compris des marchands de Técouri. Le goût du haschich ne vient jamais sans la passion des oiseaux. À Constantine surtout, mais aussi à Alger, chaque fumeur de haschich possède un rossignol. Et je ne connais que Naman qui, par indigence ou par oubli des choses extérieures de la vie, n'est pas le sien. Le rossignol, et faut-il le dire, un oiseau très positif et gourmand, dont la voix devient d'autant plus claire et le chant plus robuste qu'il est mieux nourri. On lui donne à manger de la viande crue hachée menue et pétrie avec du beurre. Remis en belle humeur par cette nourriture active, l'oiseau recouvre son haleine et se met à chanter. Dieu sait quoi ? Peut-être les satisfactions d'un estomac repu. Mais sur un mode si tendre, avec un tel sentiment du rythme et d'un élan si passionné, qu'on oublie l'oiseau pour n'entendre plus que le musicien. Quel étrange poète que cet oiseau ! Qui n'a-t-il pas bercé et enchanté depuis qu'il existe et que, libre ou prisonnier, il habite au milieu de nous ? N'est-ce pas l'âme éloquente des choses tendres, la musique même des sentiments humains ? Il a l'air d'exprimer ce que chacun de nous éprouve. L'amoureux retrouve en lui ses tendresses, celui qui souffre ses amertumes, la mère affligée ses désespoirs. Chantre des nuits heureuses, a dit de lui un des plus insondables rêveurs de ce siècle. Déjà, s'écrit le jeune Albano, le rossignol frappait du bec à la porte triomphale du printemps. Le fumeur stupide écoute à sa manière cette chanson sans parole qui le pénètre tant bien que mal à travers l'épaisseur de ses rêves. Me comprendrait-il, mon ami, si je lui disais qu'elle a fait pleurer un homme qui s'appelait Obermann, du regret d'être seul au bord d'un lac, de se sentir grand et faible de n'avoir pas vécu? Je suis entré l'autre jour au tribunal du Cadi. J'ai vu comment est rendue la justice. C'est une chose si facile, si intime et si familière qu'on ne saurait imaginer de formalité plus attrayante ni plus capable de faire excuser les procès. Le tribunal est situé rue de la Marine dans la cour de la mosquée. La même porte mène au prétoire et à l'église. La même enceinte enferme la justice et la religion. Le justiciable et le juge sont de la sorte aussi près que possible de l'œil de Dieu. La cour est dallée et fermée de balustrades à l'extrémité qui donne sur la mer. Au centre et faisant vestibule à la mosquée, parmi des arbustes, des rosiers, de grands bananiers constamment verts, s'élèvent une fontaine et deux pavillons. Le plus petit, le moins fréquenté, appartient au mufti, qui représente la cour d'appel. L'autre, reconstruit il y a peu d'années par les soins de l'administration française, dans un style approximativement arabe, est la chambre de première instance occupée par le cadi. L'auvent, très saillant et de forme asiatique, protège un large perron de deux marches, où les clients déposent leurs savates et s'assoient à l'ombre en attendant l'appel de leur cause. Une grande porte ouverte à deux battants permet au public d'assister de l'extérieur au débat et éclaire en même temps la salle qui n'a pas d'autre ouverture. Cette salle, petite, carrée, blanchie seulement à la chaux, est disposée et meublée de la manière la plus simple. De chaque côté, une rangée de banquettes appuyées au mur derrière une rangée de tables-bureaux où se tiennent les scribes ou greffiers et assesseurs du cadi. À l'entrée, un tabouret de voix pour l'huissier ou tchaouche. par terre des nattes où les clients s'accroupissent. Au fond, faisant face à la porte, se trouve la place du caddie, ce qu'en France on appelle probablement proprement le tribunal, c'est-à-dire une estrade avec un bureau, un nappé bas à dossier de char vert et des coussins. Rien au mur que de fausses fenêtres formant niches, de petites armoires fermées servant d'archives et contenant quelques livres et des papiers, enfin au-dessus du juge, une légende écrite en gros caractères et tirée d'un verset du Coran. La fonction des scribes, les adoules, est de suivre les interrogatoires, d'examiner les actes et de dresser les jugements. On les reconnaît à leur singulière coiffure de colotanade blanche en forme de citrouille, à leur pelisse de soie qui cache entièrement la culotte, et à leur air plus grave et plus digne, et qui les fait distinguer du commun des hommes et révèle en eux des magistrats. N'oublie pas que l'Adèle, le scribe, est à la fois un homme de loi et un homme d'église, qu'il préside aux cérémonies du culte, aux enterrements, comme il assiste aux démêlés judiciaires, et qu'il touche ainsi par ce double ministère aux plus graves intérêts de la vie présente et de la vie future. Quant au cadis, sa charge fait de lui un personnage important, même à côté de notre juridiction française. Celui-ci est personnellement le type le plus accompli que je connaisse de la haute bourgeoisie d'Alger. Il est grand, maigre, avec une barbe noire et peu fourni. Il a l'œil sagace et doux, beaucoup de distinction dans tout son air, la parole un peu voilée, le geste lent et la pâleur maladive d'un homme à santé délicate. Il est vêtu de blanc, de gris et de noir. Une longue écharpe de mousseline plissée sur son vaste turban sphéroïde le coiffe à la manière des marabouts et le drape abondamment jusqu'à la ceinture. Il parle peu, interroge à voix basse, et ne regarde directement les clients que si la question paraît mériter son attention. Autrement, il écoute un peu négligemment, le coude appuyé parmi les coussins, les yeux à demi fermés, moitié méditant, moitié distrait, et dans la tenue d'un homme à qui l'on ferait des confidences de peu de valeur. Quatre ou cinq scribes, un huissier armé d'une baguette, un juge à figure belle et douce, qui représente en sa personne le conseil et l'autorité, la jurisprudence et la loi. Voilà toute la magistrature. Pas d'avoué ni d'avocat, ni de ministère public, ni délai, ni procédure à suivre, ni complication, ni lenteur. On entre avec son adversaire, on s'assied par terre à côté de lui, chacun à son tour expose son affaire. Le débat contradictoire compose à la fois l'enquête et le plaidoyer. Rien n'est plus sommaire. C'est à peu près la justice de paix, c'est-à-dire la juridiction la plus logique, la plus humaine et la mieux nommée, s'il est vrai que le premier but de la justice doit être de concilier. Si l'accord est impossible, alors le cadi juge dans sa sagesse et dans sa conscience, comme Salomon. Les femmes n'entrent pas dans l'enceinte. Il y a pour elles, attenant à la salle d'audience, deux galeries ouvertes communiquant avec le prétoire par une fenêtre grillée à hauteur d'appui. La femme, qui reste voilée et qui plaide par l'étroite ouverture, peut tout au plus passer les doigts à travers le grillage en barreaux quadrillés et s'aider d'une courte pantomime pour animer l'exposé de sa cause. Le jour où je fis connaissance avec les mœurs judiciaires dont je te parle, il y avait précisément une affaire pendante entre une femme et son mari. Il s'agissait d'une demande en divorce. Retranchée derrière la lucarne et absolument invisible sous ses voiles, la plaignante articulait avec d'autant plus d'aisance des griefs à peine avouables, et racontait sans sourciller l'histoire, impossible à traduire ici, de sa vie conjugale. Le mari, que le cadi venait d'interroger, écoutait ingénument ce qui se disait de lui. C'était des choses qui faisaient sourire. Le cadi ne jugea pas cependant le mariage aussi désespéré que le prétendait l'épouse impatiente, et ne le voulut pas rompre. Au contraire, il lui conseilla de faire meilleur ménage que jamais, et remit la cause à l'année prochaine. Au-dessus de ce premier degré de juridiction, il y a, comme je te l'ai dit, le mufti, qui prononce en dernier ressort. C'est un vieillard fort âgé que je rencontre se promenant dans les bazars, vêtu d'un caftan rougeâtre, d'une pelisse verte, avec des babouches jaunes et la tête enveloppée d'un voile de soie de couleur pourpre. Le petit pavillon qu'il habite à côté du cadi est une sorte de marabout de forme sépulcrale, fort petit, très silencieux et presque pas éclairé. Il m'a semblé que le plus religieux respect entourait ce sanctuaire de la haute justice. Le vieillard y sommeillait, retiré sous la coupole comme un mage, et dans une attitude que son âge et la gravité du lieu faisaient paraître auguste. Lorsqu'un plaideur a perdu sa cause, il n'a que la cour à traverser pour passer de première instance en appel. Les deux juridictions épuisées, tout n'est pas fini. À ceux que la loi humaine a mécontentés, il reste un dernier recours. C'est d'en appeler à la justice céleste et d'aller dans la mosquée, se pourvoir en cassation devant Dieu. 12 janvier. Voici la pluie. Ah, elle a commencé ce soir à 3 heures par quelques gouttes larges et rares. J'achevais ma promenade au moment où ce signal d'espérance imploré par tout le pays, s'échappa comme avec effroi d'un ciel orageux, mais obstinément aride. Je n'en fus pas surpris car j'étais sorti pour l'attendre. Il y avait 8 jours que le temps se préparait à un changement. L'air était devenu trop sonore pour rester longtemps serein et le ciel, d'un bleu particulier, ne permettait plus de croire à la durée des beaux jours. Ce sont des nuances, mais qu'on distingue avec un peu d'habitude. Intérieurement aussi, je sentais approcher la pluie par un pressentiment qui n'a rien d'imaginaire. J'arrivais près d'un champ qu'un laboureur arabe en tunique courte était en train d'ensemencer d'orge. Il achevait d'en recouvrir les derniers sillons, y poussant à fleur du sol une petite charrue primitive attelée de 2 vaches maigres. En voyant le temps si bien disposé pour les semailles, il aiguillonnait les animaux et se hâtait de manière à terminer son travail avant la nuit, calculant sans doute avec certitude que demain il serait trop tard. À l'extrémité du champ déjà labouré, 2 enfants, aussi de race arabe, faisaient brûler de grands tas d'herbes nuisibles d'où s'échappaient d'épais tourbillons de fumée d'une odeur âcre. Je reconnus avec quelque surprise en pareil lieu l'odeur si commune en France des champs brûlés. Ce faible indice était le premier qui sensiblement m'eût indiqué l'automne. Je m'assis et regardais ce champ, rayé de sillons bruns, où je voyais 2 choses assez rares dans ce pays d'insouciance. Une charrue arabe en travail et des enfants indigènes partageant avec leur père les soins donnés au labourage. Les petites vaches, non pas accouplées sous un joug, mais attelées par le poitrail et tirant des épaules à la manière des chevaux, soufflaient d'épuisement, quoique le travail ne fût pas rude, car la terre était à peine entamée. À ce moment, je remarquai que les fumées, lourdes jusque-là, tournèrent. Un vent léger mais frais arriva de l'ouest et suivit le pied des coteaux en faisant sur son passage le bruit d'un oiseau de grande envergure. La campagne en fut comme étonnée, et les uns après les autres, par un mouvement brusque, tous les arbres de la plaine en frissonnèrent. Ce ne fut qu'un instant, le souffle passé, tout rentra dans le calme plat. C'est alors que les premières gouttes de nuit tombèrent. Rien n'était plus reconnaissable. Ni Alger, qui ne formait alors qu'un amphithéâtre sans couleur, ni les maisons turques d'un blanc de linge et qui perdaient leur forme en n'ayant plus d'ombre, ni la mer devenue livide, ni les bois du Sahel d'un vert éteint. Quoique l'air fût encore tiède, on y sentait courir des fraîcheurs humides. En même temps, dans les villages, dans les fermes, quelques cheminées se mirent à fumer, comme si chacun profitait du même avis pour faire aussitôt ses dispositions d'hiver. Les pigeons, répandus dans la campagne, regagnaient deux par deux les colombiers. Les poules rentraient avec émoi. Il y avait au contraire des compagnies d'oies qui sortaient en rade des basses-cours, et les canards domestiques battaient joyeusement des ailes en recevant la pluie et poussaient leurs clameurs de mauvais augure au bord des réservoirs desséchés. Les merles volaient d'un arbre à l'autre, s'appelant par leurs cris du soir, et quoique le soleil n'eût pas quitté l'horizon, se couchait déjà, par prévoyance, au plus épais des taillis. J'entendis chanter des grives, les premières peut-être que l'hiver eût chargées de ses messages, et des volées des tourneaux, venus des prairies, arrivaient par légions serrées pour s'assurer d'un abri sous les collines. C'était bien l'été qui finissait. Il s'achevait sans violence, sous un ciel morne et doux, sans orage et seulement par des ondées propices. Était-ce un dernier adieu de la saison maintenant passée? Était-ce le premier présent d'un hiver qui voulait qu'on fêtât son arrivée et la signalait par des bienfaits? Même date, 11 heures du soir. Il pleut à torrents. Le vent est faible, mais il souffle directement de l'ouest, mauvais signe à pareille époque. La mer s'émeut. Je l'entends qui gronde au large, sous une nuit sans lune, sans étoiles, écrasée de nuages, et rendue plus épaisse encore par les flots de la pluie. C'est plutôt un murmure intérieur que l'agitation même des vagues. On dirait que la profondeur des eaux est remuée par un orage qui remonterait du fond des abîmes à la surface. Il n'y a pas le plus faible bruit dans la campagne qui paraît morte ou frappée d'un sommeil de plomb. Les feux sont éteints depuis longtemps partout, même dans la partie du faubourg que j'aperçois de ma fenêtre. Adieu le ciel bleu, adieu le soleil, adieu tout ce qui semblait inaltérable. 13 janvier. La pluie continue. Le vent, qui n'a fait que s'accroître d'heure en heure en se fixant à son point d'hiver, commence à labourer profondément les eaux de la baie. La côte a disparu dans les remous et n'est plus marquée que par le jet rapide et blanchâtre des embruns. À chaque instant, le grain qui redouble rétrécit l'horizon en le fermant d'une nappe continue, presque impénétrable, et tendue de haut en bas comme un rideau. La campagne, aussi déserte que la mer, est inondée, car la terre, surprise par ce brusque arrosement, n'a pu s'abîmer assez vite. L'eau court dans les chemins changés en ruisseaux ou séjourne à la surface des prairies. Le hamma n'est plus qu'un long marécage. On voit des oiseaux épouvantés qui traversent comme des ombres le ciel couleur de boue. Incapable de gouverner au vent ni de soutenir un vol de quelque durée, ils plongent aux premiers buissons comme des oiseaux morts. Quant aux oliviers, ils font pitié sous cette pluie qui les rend semblables à des arbres du nord et sous le vent glacé qui déchire leur maigre feuillage en les frappant comme avec des lanières. Toute circulation semble interrompue. Personne encore n'apparut sur les routes. Chacun attend pour reprendre ses habitudes, ou que la bourrasque ait cédé, ou que la saison se soit fait reconnaître par des rigueurs plus décisives. J'ai visité mon jardin, qui forme un petit étang, puis la basse-cour où le chien dort dans sa niche, où les chevaux dorment sur leur litière et où les pigeons ramagent doucement, retirés au plus profond de leur colombier à claire-voie. J'ai revu mon voisin, M. Adam, debout au seuil de sa maison en ruine. Les poulets de son poulailler se consolaient de leur mieux en becquetant des grains oubliés sur l'appui des labas des fenêtres. M. Adam fumait sa pipe allemande. Tristement, il attend que la pluie cesse, et l'exil aussi. J'ai fermé les moindres ouvertures de mon logis, et pour inaugurer la saison qui commence, j'ai allumé un grand feu de bois odorant. Me voici donc, comme en France, les pieds devant la flamme, très étonné du changement qui s'est produit autour de moi depuis 24 heures, et bien averti que je vais avoir à payer de quelque ennui des satisfactions qui furent très vives. Au surplus, mon emprisonnement, car c'en est un, ne durera qu'autant qu'il me plaira de le prolonger. Cela dépendra du poids de la solitude. 18 janvier. Depuis 5 jours, j'assiste à quelque chose de moins redoutable, mais d'aussi désespéré qu'un déluge. Un ciel noir, des eaux noires, presque pas de jour, un fracas monotone et assoupissant comme le silence, de la pluie, toujours de la pluie, qui tombe dans un marais d'immenses cataractes qui vont descendre sur la mer. Le tonnerre a grondé la nuit dernière, je l'entendais à peine au milieu du tumulte de l'air. Les volets de mes fenêtres, qui ne sont pas construites pour de pareils assauts, menaçaient d'éclater à chaque nouvel effort du vent. Les vitres pliaient, tout près de se rompre, et ma maison tremblait comme un arbre déraciné. Mais la chose effrayante à entendre et à voir, quand on parvient à la voir, c'est la mer. 20 janvier. Le soleil n'a pas reparu, le ciel est terne. Des couleurs chagrines ont défiguré ce beau pays, revêtu de feuillage en dépit de l'hiver. Heureux pays dont la seule expression naturelle est le sourire. Le vent continue de souffler, la mer de remuer des eaux mornes en exhalant des soupirs irrités. Sais-tu ce qu'il y a de plus pénible pour l'esprit dans ce sombre tableau, si confusément composé de pluie qui tombe, de flots qui roulent et d'écumes qui jaillissent et de nuages en mouvement? C'est de ne trouver d'équilibre nulle part et de regarder indéfiniment des choses vagues qui vont et viennent, se balancent, se troublent dans la perpétuelle oscillation d'un roulis qui semble ne pouvoir plus s'apaiser. Rien pour arrêter la vue, ni qui la repose, ni qui la satisfasse, en la fixant sur des points d'appui. Une étendue flottante, une perspective indécise, de forme insaisissable. À terre, pas un objet qui ne soit agité. En mer, pas une ligne de nuage ou d'eau qui ne soit mobile, pas un trait qui ne s'évanouisse aussitôt formé. Ce petit supplice est un de ceux que j'ignorais. S'il devait durer, je quitterais Mustapha, où la mer est insupportable à voir quand elle n'est plus calme. En attendant, je ne la regarde plus, je tâche de ne plus l'entendre, et je fais mon possible pour l'oublier. Je travaille. Je me console avec des couleurs claires, des formes rigides, de grandes lignes bien nettes. Ce n'est pas la gaieté qui me plaît dans la lumière. Ce qui me ravit, c'est la précision qu'elle donne au contour Et de tous les attributs propres à la grandeur, le plus beau, selon moi, c'est l'immobilité. En d'autres termes, je n'ai de goût sérieux que pour les choses durables, et je ne considère avec un sentiment passionné que les choses qui sont fixes. Février. Je ne sais pas si l'hiver est fini, mais il fait très beau. Le paysage est transfiguré et toute la campagne est redevenue verte. J'avais donc calomnié l'hiver, qui témoigne aujourd'hui de sa bienfaisance. Grâce à la prodigieuse quantité des pluies tombées, voici les sources remplies, les sillons animés, les arbres gonflés de sève et les plus petites veines de la terre approvisionnées d'eau pour une année. Il n'y a pas de terrain si maigre qui n'ait recouvré l'abondante fertilité des prairies, ni de landes abandonnées où ne poussent à foison des herbages utiles. Et cette immense étendue couleur d'espérance se prolonge ainsi par-dessus les villages, les fermes et les grands chemins, depuis le mur d'Alger jusqu'aux montagnes kabyles, où s'est amassée la réserve des neiges pour l'époque des premières chaleurs. Les moissons disparaissent au milieu de cette steppe uniforme où le blé n'apparaîtra plus qu'en jaunissant. Il y a des moutons mis en pacage dans l'hippodrome où la cavalerie ne manœuvre plus. Les amandiers sont en fleurs. Le long des fossés humides, des chameaux gardés dévorent les boutons naissants des jeunes frênes. Ce pays, déjà printanier, n'attendait plus qu'une journée pareille pour se trouver en harmonie parfaite avec le climat. Mais ici, le printemps n'est jamais bien loin. La saison change avec le vent. Sitôt qu'il remonte au nord, l'hiver, qui n'a que la mer à traverser, peut accourir en quelques heures. Et pour peu qu'il descende, la saison nouvelle arrive en quelques minutes avec la chaude exhalation du Sahara. Le vent est si faible aujourd'hui que les fumées les plus légères sont à peine inclinées. Mais au premier souffle qu'on respire, on devine et d'où il vient et ce qu'il promet. Il apporte la première nouvelle du printemps. J'affirme qu'il n'y a pas un brin d'herbe de ce pays qui n'en soit averti depuis le lever du jour. J'ai profité de ce court moment de miséricorde, peut-être sans lendemain, pour faire une promenade de convalescent. N'ayant pas de but, je l'ai fait au hasard, par le premier chemin venu, à pied, lentement et doucement, à l'exemple des valétudinaires dont le retour à la santé se manifeste d'abord par la surprise de tout ce qu'ils voient et par la joie silencieuse de vivre. J'ai vu des choses très simples qui m'ont ravi. Mais le véritable événement de ma journée, c'est le beau temps. Connais-tu, mon ami, les effets incalculables produits par un baromètre qui monte ou qui descend? Et t'es-tu jamais aperçu à quel point ce petit instrument nous gouverne? Peut-être vivons-nous, tout ce temps que nous sommes, sous la dépendance de certains agents occultes, dont nous subissons l'action sans l'avouer ni la définir. Peut-être y a-t-il au fond de la destinée de chacun de nous de petits secrets misérables dont nous ne parlons pas, de peur de confesser notre servitude et d'humilier devant la matière une âme humaine qui se prétend libre. Quant à moi, après ce long emprisonnement, après un mois de tête-à-tête avec mon ombre, le moindre ébranlement d'esprit devient une aventure, une sensation reçue vaut une anecdote, et ne t'étonne pas si j'arrive à ce résultat de considérer comme un plaisir inusité le plaisir même de me sentir ému. J'ai suivi le chemin qui côtoie la mer. Plus tard, il deviendra une grande voie commerciale, car il mène en Kabylie. Pour le moment, c'est un des plus déserts. On n'y rencontre que de rares piétons arabes revenant du marché avec de pauvres convois d'animaux les tellis, sacs de voyage vides, les bas sans charge et des paquets de cordes lâches flottant autour des harnais ruinés, ou bien, chose plus rare encore, quelques rôdeurs maltais, moitié paysans, moitié matelots, qui vont après chaque bourrasque ravager le bord de la mer et recueillir les épaves. Il n'y avait personne dans les champs où les cultivateurs n'ont plus rien à faire après les semailles, la pluie d'abord et puis le sommeil se chargeant du reste. Le temps était gris, très calme, et clair jusqu'aux plus lointains horizons. C'est ce que les habitants de mon pays et du tien, où le râle est dur, appellent un temps de demoiselle. À mi-chemin de la maison carrée, je me suis assis sur un petit promontoire écarté. S'il y avait eu là beaucoup de cactus et d'aloès, j'aurais pu me croire à 400 lieues d'Afrique, sur une côte élevée aussi et toujours déserte, d'où se voit une mer qui n'est pas celle-ci. L'impression était la même, la grandeur égale. Aujourd'hui, la Méditerranée ressemblait à l'océan. Elle était pâle et ne voulait pas plus que de longs intervalles de grands flots tristes, sans force, et dont le bruit diminuait d'heure en heure à mesure que le calme de l'air s'emparait d'eux. À peine entend-on vers Matifou le murmure encore sensible d'un orage retenu sans doute au large par le vent contraire. À mes pieds, et si près du flot qu'on eût dit à chaque instant qu'il allait les engloutir, piétinaient des oiseaux de rivage tout à fait semblables à nos oiseaux de France, avec un plumage gris et des ailes pointues. Comme tous les habitants des sables, ils marchent sur des échasses. Leur bec aiguisé comme un épieu pique incessamment le sol spongieux des grèves, et leur cri, composé d'un petit soupir aussi ténu que peut l'être un bruit, leur semble donné pour mesurer par sa faiblesse l'énormité des bruits de la mer. Rien n'est plus mélancolique et plus frappant que ce petit oiseau, vivant, courant, chantant à 2 pouces du flot, ne s'en écartant jamais, ni pour habiter la terre, ni pour se hasarder dans de longs voyages, traversant au plus, quand il est chassé, les baies étroites et ne s'éloignant pas de cette maison et de cette mince linière de sable humide où sa vie se passe. Quand une vague approche, il ouvre ses ailes et l'évite. Où se cache-t-il pendant la tempête? Il n'est plus là, mais il en est témoin. Il laisse s'apaiser les grandes violences, et sitôt que le rivage devient habitable, il reprend ses familiarités avec la mer. Je suis rentré vers la nuit par des chemins sombres et tout enveloppé de l'abondante humidité qui tombait. Je ne distinguais plus la mer, je l'entendais. Alger s'étoilait de lumière et partout où se cachait une habitation, la campagne obscure était piquée d'un feu rouge. En arrivant au champ de manœuvre, j'aperçus vaguement le contour de ma maison et je vis ma lampe allumée qui brillait par ma fenêtre ouverte. 7 février. Je reçois aujourd'hui même la lettre que voici. On m'apprend que vous êtes revenu. Je suis à Blida depuis 3 jours et je compte y séjourner une semaine ou deux pour y restaurer mon vieux cheval qui n'en peut plus. Si rien ne vous retient, vous aide, je vous attends. J'ai vu ce matin même, près des orangeries, une petite maison, selon vos goûts et les miens. En souvenir du passé qui nous a fait compagnons de route, et par précaution pour l'avenir, je vous serre affectueusement la main. Boudjada, mon adresse, rue des Kouglouglis, chez Boudiaf. Une autre fois, je te rappellerai, si tu l'as oublié, ce que c'est que mon ami Boudjaba en français, Louis Vandel. Pour le moment, je prépare à la hâte mon bagage de route en vue d'une absence indéterminée et je ferme avec un peu de confusion de la trouver si vide mon journal de Mustapha. Bonsoir, je pars demain par la diligence de 7 heures.